I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Art plastique. Arne Laporte.
Autour de moi ce soir, Sandra, Dan Courallet, Florian Guettet et Frédéric Bonnet. À notre affiche, une spéciale Lille 3000 Eldorado avec deux gros plans Eldorama, Tripostale, la déesse verte à la gare Saint-Sauveur et puis des coups de cœur de nos critiques. Sandra Adam Courallet nous parlera des Enfants du Paradis, Frédéric Bonnet, de quoi? De Golden Room, finalement? J'ai oublié de noter quel était votre choix final de coup de cœur. C'est Olga, Golden Room ou Protesta Fantasma?
Non, c'est Olga de Amaral et Mircea Cantor dans l'exposition Golden Room.
Ah d'accord, voilà. Mais pas l'expo tout entière.
Pas bon, l'expo tout entière.
J'ai mal noté. Et puis Florian nous parlera, lui, de Jungle et Sentiments, Julien Salo au Colisée. Après avoir été capitale européenne de la culture en 2004, Lille a su transformer le temporaire en pérenne en offrant régulièrement des événements culturels XXL. Après l'Inde, l'Europe ou la Renaissance, le nouveau volet de Lille 3000 ouvre donc très grand ses bras au Mexique, réel ou fantasmé. Jusqu'au 1er décembre, c'est toute la métropole lilloise qui devient un Eldorado. Alors moi, je n'ai pas encore pu faire le voyage pour Lille, donc je vais être tout oui et premier auditeur de cette dispute, avec toujours ce même problème. Dans ces cas-là, impossible d'appréhender toute la diversité des propositions, d'où le choix de se concentrer sur deux des grandes expositions et de permettre à chacun des critiques de livrer son coup de cœur. Pour autant, quand même, un ressenti général de ce que vous avez pu voir de cette manifestation, une sorte de... comment ça respire cet Eldorado à Lille, Sandra Adam Courallet, vraiment une vision globale?
Une vision très politique et en même temps chatoyante, gay.
Frédéric Bonnet.
Comme toujours à Lille 3000, un mélange des genres, du bon et du moins bon, et je trouve des expositions qui se tiennent bien, et par contre un art urbain et public, on va dire, qui est beaucoup plus problématique à mon goût.
Et enfin, Florian Guettet.
Spectaculaire, ludique, coloré, hein, vraiment haut en couleur, mais un peu trop éparpillé pour qu'on puisse saisir vraiment la cohérence de la proposition.
Premier gros plan dans ce nouvel épisode de Lille 3000, l'exposition Eldorama, découvrir jusqu'au 1er septembre au Tripostale. Sandra Adam Courallet, quel est donc le sujet, l'axe choisi pour cette exposition dont les commissaires sont Jérôme Sens et Jean-Max Collard avec la collaboration d'Isabelle Bernini. Sandra.
Eh bien, je le disais, la manifestation dans son ensemble est politique, mais s'il y a une exposition politique, c'est celle-ci, c'est celle d'Eldorama, donc c'est un axe donc clairement politique. Le thème de l'Eldorado ici, cette question du rêve d'un monde meilleur, elle est abordée dans sa dimension à la fois sociétale et très contemporaine. Finalement, l'exposition, elle pose plusieurs questions. C'est en quoi l'ailleurs, à la fois, il est attractif et en même temps, en quoi il constitue souvent un mirage et l'illusion d'un paradis perdu qui serait typique, en fait, de nos sociétés modernes. Et pour y répondre, L'exposition propose un vaste panorama sur des pratiques artistiques actuelles et du monde entier, d'où le titre, j'imagine d'ailleurs, d'Eldorama, qui est un condensé de panorama, on peut imaginer, et d'Eldorado.
Alors, avec une ambition et un propos aussi vaste, Florian Guettet, comment est conçu le parcours d'Eldorama au Tripostal ? C'est un grand lieu, le Tripostal.
Oui, c'est un grand lieu pour un grand sujet, pour une grande ambition aussi, une ruée vers l'art, comme ça, qui est assez, avec ses, évidemment ses artistes précieux. Hein, et on a un peu de mal parfois à trouver la direction, donc c'était bien de pouvoir organiser quand même un parcours. Il y a trois niveaux au Tripostal qui vont constituer les trois chapitres, enfin, les trois lieux dans lesquels il y a les trois axes des deux commissaires. Jean Mascolard et Jérôme Sens. Le premier, c'est Monde rêvé, donc sur l'Eldorado comme terre fantasmée, avec des travaux qui font vraiment la part belle à l'imaginaire. Donc on arrive, on est accueilli par une installation assez impressionnante, tout en rose et doré, assez kitsch, hein, du duo Tugral et Tagrin, qui est un duo indien qui parle de ces mariages arrangés dans lesquels les maris abandonnent très vite leur femme pour un ailleurs, et puis ensuite toute une sorte de proposition très très ludique, très qui verse un peu plus dans le spectacle, la dramaturgie, qui sont proches du théâtre aussi, avec une pièce infinie de Yayoi Kusama, vous savez, ces pièces avec énormément de lumière et de miroirs, avec un dragon de chambre à air de vélo et de voiture miniature de Shenzhen, avec une scène assez carnavalesque, assez lugubre de Marnie Weber, etc. Au deuxième niveau, on arrive sur la ruée, donc vraiment sur le thème de l'exode, mais qui est aussi un exil, sur les déplacements de foule. Alors là, c'est un peu plus politisé, effectivement. On trouve de l'art conceptuel avec Jonathan Monk, on trouve beaucoup de propos sur l'émigration à proprement parler. Donc ça va de Laura Eno à Adèle Abdessemed, en partant par Babi Badalov ou Maria Kourkota. Et puis un troisième niveau, Eldorado sans fin, qui est un petit peu plus confus pour moi dans le propos. On ne sait pas si c'est vraiment une façon d'introduire la désillusion, en fait, qui arrive à la fin de cette ruée vers l'or, avec effectivement des propositions moins optimistes, on va dire. On a une sorte d'installation catastrophiste, un petit peu des poiriers. On a un film sur les Mongols, sur les difficultés des Mongols à se constituer dans des métropoles urbaines. Ça, c'est un film de Liu Xiaodong. On a le Mike Kelly qui nous propose un laboratoire assez sombre autour de la ville où est né Superman, qui a été détruite. Et puis on retrouve encore l'émigration là aussi, avec Superflex, avec encore une fois Laura Eno, avec les bois de cordonnier du Ghana, qui forment comme une sorte de mur de l'horizon. En gros, c'est une forme de contre-utopie sur laquelle se termine ce parcours.
Alors, trois niveaux, donc les mondes rêvés, la ruée, un Eldorado sans fin. Maintenant, vous allez pouvoir développer votre propos critique les uns et les autres, cette exposition Eldorama. On commence avec Frédéric Bonnet.
Moi, j'ai trouvé que c'était une exposition assez riche, intéressante dans la variété des formes et des problématiques qu'elle induit. La variété des formes, c'est pas évident dans une exposition comme celle-ci, à un très fort contenu politique, social et sociétal, comme mes camarades viennent de le dire. J'ai été assez étonné, même si c'est pas forcément des peintres que j'apprécie, mais de trouver de la peinture dans cette exposition. J'ai trouvé ça très bien fait, très bien joué, parce que évidemment c'est le genre de thématique qui amène beaucoup de vidéos, notamment, et c'était bien de construire un accrochage avec des formes qui soient variées. Moi, ce que j'en retiens de cette exposition, c'est une confrontation à des humanités. Il y a un nombre important d'œuvres qui ont trait à des expériences, et je trouve qu'évidemment c'est intéressant quand on aborde une telle thématique, beaucoup d'œuvres ont trait à des récits d'expériences, encore une fois, ou à des expériences rêvées ou fantasmées, mais en tout cas il y a souvent, presque toujours, un rapport humain qui me semble assez essentiel dans le propos. j'ai trouvé que l'accrochage était assez bien tenu. Alors, on s'y perd parfois un petit peu, c'est vrai. Bon, comme vous l'avez dit, Arnaud, le Tripostal, c'est un espace immense. C'est pas facile à occuper. Alors, pour le coup, l'exposition a le mérite de la clarté, mais c'est vrai que parfois, on a un peu de mal à relier les œuvres les unes entre elles, et on se demande finalement si l'articulation entre le premier et le deuxième étage est bien nécessaire, parce que moi, je trouve qu'il y a des problématiques qui se renvoient, qui se rappellent, et finalement, on aurait peut-être très bien pu se passer d'une distinction, parce que ce à quoi ramènent beaucoup des œuvres qui sont convoquées là, c'est quand même des questions d'échappatoire, des questions de violence des territoires, de la nécessité d'un territoire à soi, de l'exploration, et c'est vrai que c'est des questions qu'on retrouve un peu à tous les niveaux de l'exposition.
Oui, d'ailleurs, Florian, vous le disiez, je vous redonne la parole dans un instant, Sandra. Laura Hainaut a deux étages différents, mais est-ce que c'est la même série, les séries récentes autour des migrants, notamment à Calais, ou est-ce que ce sont des travaux très différents?
Non, c'est les travaux les plus récents. Il y a Coropa, qui est un film qui avait beaucoup marché, qui suivait un enfant de 10 ans qui était initié au métier de passeur. Et en fait, elle a suivi ce petit garçon qui s'appelle Patron, qui est devenu en fait un clandestin lui-même, puisqu'il a dû, à un moment, pour avoir une vie meilleure ou espérer une vie meilleure, partir des Comores pour aller à Mayotte. Et à Mayotte, quand elle a suivi, eh bien, elle a trouvé un autre sujet quelque part. Ce sont des bandes de jeunes qui n'ont pas forcément leurs papiers parce que les parents sont pas forcément informés des démarches à faire, etc. Qui sont souvent décrochés scolaires, mais pas tous, souvent dans une sorte de petite délinquance, et qui se gros groupe en bande à la lisière de la forêt et de la plage, avec leur meute de chien. Et donc ça s'appelle Géouriao, qui veut dire pourquoi t'as peur, qui est une sorte d'interjection pour montrer un petit peu sa force à l'étranger, hein. Et pourquoi t'as peur, ça peut être aussi quelque chose d'un peu gentil, mais ça montre aussi toute la violence de cette communauté là donc une sorte de contre-utopie là encore c'est rendu par contre sous une forme extrêmement précieuse, hein, comme tout chez Laura Hainaut. C'est très délicat, avec beaucoup quand même de dramaturgie derrière. Il y a tout un couloir en fait, hein, qui est dédié à cette œuvre-là, des photos, hein, où on voit ces jeunes parmi leur environnement naturel, qui est vraiment un travail que j'aime beaucoup, beaucoup.
Je reviendrai vers vous, bien sûr, aussi, Florian. Sandra Dancorale, vous avez tout à l'heure décrit les sujets de cette vaste exposition Eldorama. Est-ce que vous y êtes retrouvée, vous ?
Moi.
Vous, est-ce que vous êtes retrouvé au sens, est-ce que vous avez trouvé votre chemin, est-ce que la pertinence, est-ce que le sujet et l'expo correspondent, ou est-ce qu'il y a de...
Bien sûr, moi ça m'a pas dérangé en fait qu'on alterne finalement, si j'ai bien compris l'exposition, de monde, comme je le disais, attractif, d'utopie en désenchantement. Et finalement, je crois que d'un point de vue global, ce que nous dit l'expo, c'est que l'espoir va toujours de pair avec une forme de désenchantement. Voilà, c'est une vision assez sombre en fait, cette exposition. Le ton des œuvres en tout cas est très sérieux, je trouve. Chaque Eldorado semble être une sorte de je ne sais pas, de supercherie. Le rêve, il est toujours éphémère, il y a rien qui semble durer, et la plupart des œuvres finalement nous racontent des histoires très touchantes, de parcours souvent douloureux. Et qui supposent d'énormes sacrifices. Ce sont des récits d'Eldorado souvent épiques, surtout au début de l'exposition, mais c'est surtout un récit violent. Et même l'œuvre de l'entrée que décrivait Florian, de ce collectif d'Indiens Tukral et Tagra, avec ses couleurs roses et dorées, même cette œuvre, elle est une forme de dénonciation, en fait, de la société de consommation et de la mondialisation. En fait, pour être précis, je ne veux pas dire que l'exposition, elle est alarmiste ou dramatique. J'ai l'impression qu'elle se veut, en tout cas, réaliste. C'est Stendhal qui disait que le réalisme, c'est un miroir qu'on promènerait le long d'un chemin. Et je crois que cette phrase, elle est assez adéquate pour plusieurs œuvres de l'exposition. Il y a notamment ce film de 2016 qui a été réalisé par Maria Curcuta, à Idoménique. Donc c'est l'un des noms d'un des plus grands camps réfugiés d'Europe, qui consiste en fait, ce film, en un long plan fixe sur la frontière entre la Grèce et la Macédoine, et l'on voit simplement des gens passer. Ce sont sûrement des Syriens, sûrement des gens qui viennent d'Irak. L'action semble très ordinaire, or il y a quelque chose de... Enfin, en tout cas, il y a un enjeu énorme derrière. Voilà, l'exposition, les œuvres, elles sont réalistes dans ce sens-là. Il y a aussi une œuvre que je ne connaissais pas, qui m'a beaucoup touchée, d'un artiste chinois, qui s'appelle Liu Xiaodong, qui consiste en des huiles sur toile et une vidéo surtout, sur la ville d'Orlos, qui se situe en Mongolie intérieure, où en fait, l'on assiste finalement une sorte de migration de Mongols qui sont plutôt dans une société, on va dire, rurale à la base, qui veulent rejoindre cette ville d'Ordos. Ordos qui est une ville nouvelle, en fait, mmh. une ville moderne, mais parfaitement artificielle, et en fait qui peine à se peupler, qui est assez vide. Et Liu Xiaodong filme ces Mongols qui quittent la vie rurale vers la promesse, peut-être, d'une vie moderne. Et on a vraiment, Frédéric parlait tout à l'heure d'une confrontation à des humanités, ici on a vraiment quelque chose de très touchant dans ce film d'un monde en transition, et parfois d'ailleurs cette difficulté exprimée de vouloir revenir en arrière, de vouloir faire marche arrière.
Alors plus je vous écoute, plus je me dis que le titre d'Eldorama finalement n'est pas si mal choisi, parce qu'on oui. voit bien que les propositions sont extrêmement diverses, Florian Guetté.
Oui, en même temps, elles sont, enfin, le mouvement même de l'Eldorado peut être vite contredit, parce qu'en fait on s'attend à ce qu'il y ait vraiment beaucoup de déplacements, mais effectivement, comme vous le rappelez, il y a beaucoup de moments stationnaires en fait. Effectivement, donc Idoménie, à ce moment-là, de Maria Kourkova, quand elle prend en fait la caméra en 2016, la frontière vient de se fermer. Oui. Donc ils se retrouvent en fait un peu enfermés dans leur niveau. Et ils occupent à ce moment-là une voie ferroviaire. Donc on se retrouve effectivement dans un lieu de passage, mais tout est arrêté. Et souvent en fait on a des stations comme ça. On a Martina Balea qui a carrément proposé une chambre de repos en plein milieu de l'exposition.
Ce sont des temps suspendus.
Voilà, des temps suspendus. Il faut se reposer, il faut marquer un arrêt. Il y a cette boucle temporelle. On a un naufrage comme ça de René Grave, où on voit une sorte de marin ou de pirate, enfin pas un pirate, un marin du 17e qui est enfermé dans son propre accident et dans son propre naufrage, et donc la vidéo est en boucle et on ne peut pas en sortir. Donc finalement c'est des migrations qui peinent parfois à gagner en mobilité et c'est aussi la question vraiment de la globalisation aujourd'hui, bouger mais pour aller où? Est-ce que quand on bouge, est-ce qu'on va vraiment ailleurs, ou est-ce que finalement avec la mondialisation, quand on bouge, ben on retourne chez soi? Et cette impossibilité là je trouve qu'elle est très bien évoquée, d'autant que ça oblige le public à savoir de quel côté on se place. C'est-à-dire, est-ce qu'on a envie de croire à l'Eldorado? Et à ce moment-là, il y a cette première lecture de ces œuvres très spectaculaires, très colorées, souvent monumentales, où on peut s'arrêter à quelque chose de très séduisant. Et puis en fait, si on commence à plonger, comme vous avez parlé pour le duo d'Indiens, Tougral et Tagra, Si on commence à analyser les œuvres, eh bien on rentre dans un discours un peu plus critique. Ça n'empêche pas effectivement qu'il y a des voisinages qui moi me semblent extrêmement problématiques. Notamment, j'ai pas bien compris pourquoi on avait Younes Ramoun, donc c'est une très belle pièce, hein, cela dit, sur une sorte d'Eldorado spirituel, puisqu'elle est liée à l'islam et aux sept branches de l'islam, donc une sorte de mausolée blanc dans lequel on peut pas rentrer totalement, qui est juste bon, qui est pas très loin en fait de Mike Kelly, donc Mike Kelly qui est un laboratoire beaucoup plus pop, phosphorescent, etc. Donc, ce voisinage-là, moi, je l'ai pas bien bien compris. Et puis surtout cette question de la migration. Est-ce que la migration c'est toujours un Eldorado? Quand on fuit la guerre, est-ce qu'on peut comparer cette situation à des chercheurs d'or?
Sandra, t'as encore allé?
Oui, non. Juste pour finir, il y a une œuvre moi qui me semble très juste et qui ponctue toute l'exposition, qui est cette œuvre très simple d'Adèle Abdessemed, qui est ce mot en néon. Ce mot exil qu'on retrouve aux différents étages de l'exposition, qui évidemment joue de l'ambiguïté de par son médium et de son accrochage en haut des murs entre le terme exil et peut-être exit, c'est-à-dire ce néon qui indiquerait la sortie d'un lieu. Voilà, je pense que en tout cas c'est même l'artiste lui-même qui le dit. Cette ambiguïté dans le terme, dans l'œuvre exil, elle souligne l'ambiguïté de cette question de l'exil lui-même, qui est que l'exil, c'est à la fois quitter et s'installer, c'est à la fois ici et là-bas.
Pour finir, Frédéric Bonnet, encore quelques mots sur Eldorama.
Oui, je trouve que c'est Une chose assez intéressante de la part des commissaires, c'est que dans ce fort contenu social et politique, comme on l'a dit, il y a tout de même des œuvres qui s'en détachent indirectement, formellement parlant, et je trouve ça assez intéressant parce que elles permettent d'articuler l'exposition. Il y a notamment au rez-de-chaussée un grand mural d'Abdelkader Benchama. Quand le mythe de l'Eldorado est devenu une sorte d'utopie universelle qui ne peut plus permettre de définition d'un territoire, je trouve qu'une œuvre comme celle-ci sonne particulièrement juste parce que, comme souvent dans son travail, on est face à un paysage soumis à une sorte d'effet centrifuge, un paysage en fusion qui devient un ailleurs indéfinissable. Donc ça, je trouve ça très intéressant. De même que une œuvre magnifique de Martina Balea qui s'intitule Eldorado Lounge qui est véritablement un espace de transition. Un sas avec des papiers peints colorés avec des motifs de végétation comme elle le fait souvent et donc on se retrouve comme dans un sas dans lequel on peut imaginer ses propres récits, ses propres désirs et ses propres aventures et où on n'est pas soumis aux événements comme on l'est dans beaucoup des autres œuvres et j'ai trouvé ça particulièrement rafraîchissant.
Eldorama, beaucoup de choses à voir dans cette exposition qui se tient au Tripostal à Lille jusqu'au 1er septembre dans le cadre de l'île 3000 Eldorado. On va parler ensuite dans la dispute de la déesse verte à la gare Saint-Sauveur cette fois. Et puis différents coups de cœur, des critiques. On va commencer par le premier. Cette découverte d'Eldorado, l'île 3000, avec ce premier coup de cœur, celui donc de Sandra Adancourale, pour les enfants du paradis au MUBA à Tourcoing.
Oui, au Musée des Beaux-Arts à Tourcoing. C'est une des trois expositions qui est orchestrée, encore une fois, par les commissaires Jérôme Sens, Jean-Max Collard et Isabelle Bernini. Cette fois, c'est une exposition qui est consacrée au médium de la peinture, qui fait... depuis quelques années d'ailleurs, son grand retour chez les jeunes artistes. Le titre de l'expo « Les enfants du paradis », il vient du titre du célèbre film de Marcel Carnet. Vous savez, ce film avec Arletty et Jean-Louis Barrault, où les protagonistes sont particulièrement rêveurs et mélancoliques. Et à l'image de cette mélancolie, on a ici effectivement toute une génération de jeunes peintres qui expriment... voilà, sur leur toile, des visions, des paysages souvent délavés et des mises en scène de personnages énigmatiques. En fait, j'ai l'impression, ce qui m'a intéressé, c'est que ce qui ressort de cette pratique de la peinture, c'est qu'on dirait toujours que la réalité, elle échappe. Que la réalité, finalement, elle est floutée, peut-être parce qu'elle est elle-même saturée d'images, en fait. Et le médium de la peinture, il viendrait à son tour rendre compte de cette réalité morcelé, fragmenté. Alors je ne vais pas citer tous les artistes de l'exposition, mais je vais en citer quelques-uns qui m'ont intéressé. Il y a les grandes toiles de Romain Bernini, qui propose, lui, une sorte de représentation fantasmée de personnages hybrides qui mêlent la culture occidentale et extra-occidentale. Ce sont par exemple des porteurs de masques affublés d'un jean ou d'un vêtement plus classique, dans des grands paysages colorés, pas vraiment identifiables. Il y a aussi représentatif de cette génération cet artiste Till Gerhardt qui travaille en Allemagne et qui nous embarque lui aussi à son tour dans des atmosphères très mystérieuses. Il dépeint souvent des scènes rituelles lui aussi dans la nature qui pourrait rappeler les années 60 ou 70. La plupart des personnages sont représentés tournant le dos et l'ensemble est traité avec des taches ou des touches délavées, encore une fois, de peinture, qui vont transformer ces scènes en des sortes de visions fantastiques. Ce qu'il y a aussi de commun chez tous ces artistes, c'est qu'on voit bien que leur peinture, elle est nourrie de films et d'images qu'ils ont glanées sur Internet. Je pense, là encore, à une autre jeune artiste qui s'appelle Nina Childress, avec un style très pop, qui s'inspire des images des films de naturistes amateurs des années 60. Elle les transforme en peinture, avec des couleurs saturées, très floues. Et donc, en les transformant en peinture, finalement, elle les transforme en sorte d'icônes des temps modernes. Et puis, même quand ce sont des sujets plus graves, comme avec la peinture de Guillaume Bresson, alors je pense à une grande œuvre qu'il montre, où en fait il reprend, j'imagine, une photographie qui existe d'un affrontement violent entre différents individus dans une banlieue d'aujourd'hui, et il la transforme véritablement en immense peinture d'histoire, en sorte de peinture classique. On pense vraiment, quand on est devant cette peinture, à l'enlèvement des Sabines de Poussin. Voilà, tous ces jeunes artistes, finalement, ce qui ressort, c'est que c'est une nouvelle manière d'utiliser le médium de la peinture. Et je trouvais que c'était une très bonne idée de les réunir dans cette exposition. La peinture qui serait finalement une sorte de tentative d'élaboration, peut-être, d'une nouvelle mythologie d'un monde contemporain.
Messieurs, vous avez vu cette exposition du MUBA ou pas? Non, parce que chacun fait ses parcours, hein, donc je vais avoir peut-être un autre regard, mais celui de Sandra Dancourallet nous donne envie d'aller au Musée des Beaux-Arts de Tourcoing pour découvrir l'exposition « Les enfants du paradis ». Comme j'ai fait mon travail, c'est jusqu'à quand cette exposition-là? Vous ne l'avez pas non plus.
Aussi, on va retrouver 26, ça. Pardon, jusqu'au 26 août.
Jusqu'au 26 août, voilà, qui nous laisse du temps. Merci Sandra.
France Culture, La Dispute, Arne Laporte.
Suite de cette découverte de l'Eldorado, c'est rien moins que le programme de La Dispute ce soir, Eldorado version Lille 3000 avec la déesse verte. Exposition jusqu'au 3 novembre à la Gare Saint-Sauveur, c'est Dorothée Dupuis qui en est la commissaire. La déesse verte, ça ne me dit pas grand-chose, donc je me tourne vers Florian Guettet pour qu'il m'explique. Sans commenter dans un premier temps, mais expliquer de quoi il s'agit, Florian.
Bah, le parti pris de cette exposition, c'est de considérer la nature elle-même comme un Eldorado, une source d'énergie, de ressources personnifiables, à la fois comme un paysage et comme une sorte de déité, hein, une déesse verte, en perpétuel renouvellement, qui s'opposerait finalement, qui opposerait sa puissance à la vulnérabilité des hommes, puisque les hommes sont voués à disparaître, tandis que la nature leur survivra. Alors c'est un sujet un peu classique, on va dire, hein, assez vaste, un peu imprécis même d'ailleurs, un petit peu exotique, parce que finalement il y avait de quoi aussi aller chercher dans la culture aztèque ou mexicaine, qui est mise à l'honneur, peut-être des référents un peu plus précis que la déesse verte.
Là vous faites déjà du commentaire, mon cher Florian.
Mais en tout cas voilà, on se retrouve dans une exposition qui veut se présenter comme une sorte de serre fantastique, avec sa clairière, ses chutes d'eau, son tunnel, une sorte de grand jardin entre la forêt exotique et l'aire de jeu, quelque part. Ça donne une impression assez étrange, parce qu'en fait on rentre sur un hôtel, donc on s'attend pas forcément...
Elle va nous décrire
pour finir quand même le sujet, ouais. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment pris dans un sens assez métaphorique et pas forcément littéral, ceux qui en tout cas s'attendent à voir de la verdure voilà. Déçu.
Alors, premier commentaire, tour de table pour un résumé de vos impressions que vous développerez dans un instant, Frédéric Bonnet, sur cette exposition La Déesse Verte.
Oui, j'ai trouvé que c'était une exposition assez confuse, vraiment pas inintéressante dans le sujet et dans les artistes. J'aime pas tout, mais j'ai trouvé les choses vraiment très très bien dans le l'accrochage. Par contre, je trouve qu'elle est assez imprécise. Je vous rejoins, Florian, et un petit peu confuse dans son organisation.
Sandra Dancourallet.
Mais moi j'ai trouvé que c'était une exposition très rafraîchissante, colorée, parfois foutraque, certes, mais finalement plutôt très intelligente.
Florian Guettet.
Ratée et infantilisante.
La déesse verte à la gare Saint-Sauveur. Frédéric Bonnet, une rapide description du parcours.
Mais justement, c'est ce qui m'a perturbé le parcours, parce que y a en fait deux éléments qui se côtoient dans l'espace. Une évocation de la Casa Barragán avec un projet alors qui s'intitule Hôtel Barragán.
C'est quoi la Casa Barragán?
C'était la maison atelier de Luis Barragán à Mexico, qui a été reproduite absolument partout et qui est devenu un objet mythifié et fantasmatique pour beaucoup d'artistes. À côté de ça, un accrochage qui est plutôt une promenade dans un paysage habité, un peu foutraque, comme on le disait, mais assez bien conçu, je trouve, dans la manière dont on peut s'y promener. Puis alors, en explorant le dossier de presse, j'ai vu que l'hôtel Barragán était présenté comme un projet à part. Alors, est-ce que ça fait partie de la déesse verte? Ben, j'en sais rien. Je sais pas quel est votre... je demande à mes camarades ce qu'ils en pensent. Du coup, c'est présenté à part. Donc, je sais pas si ça fait partie de la déesse verte, mais en tout cas, du coup, ça rajoute...
Dans les deux, en tout cas.
Pardon?
Les artistes sont en tout cas dans les deux. Hein.
Oui, il y a des artistes qui sont communs aux deux. Ouais, c'est ça. Alors du coup, ça rajoute.
Pas très clair,
ça rajoute.
Là, Sandra, vous avez une information.
En fait, j'ai cru comprendre que, en fait, il y a cette sorte de préfabriqué d'hôtel, en fait, qui est toujours présent dans la gare Saint-Sauveur et qui est ici réhabilité, transformé grâce à l'exposition en Casa Barragán, qui est donc cet architecte mexicain.
D'ailleurs, est-ce que je me trompe ou ça a été rebaptisé aussi Hôtel Europa?
C'est l'Hôtel Europa, et pour l'occasion, ils l'ont baptisé Hôtel Barragán. Enfin, c'est ce que j'ai compris.
Bon, c'est pas très sûr de vous, mais bon.
Bon, mais non, mais merci Sandra, parce que ça nous éclaire tout de même. Mais alors, du coup, moi j'ai trouvé assez raté la proposition de l'Hôtel Barragán. J'ai trouvé plus intéressante la proposition entre guillemets paysagère, on va dire, ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est que les œuvres s'enchaînent d'une manière assez naturelle et presque organique, qui donne un peu une impression d'un tout. C'est ça qui est assez bien joué, même si les propositions sont très très différentes les unes des autres.
Alors, on va voir, on se souvient qu'à l'instant, Sandra a dit du bien de cette exposition et que Florian a qualifié de ratée et infantilisante. On va commencer par le procureur, Florian Guettet.
Non, désolé,
pourquoi ratée et infantilisante?
Raté parce que je peux pas m'empêcher de voir aujourd'hui, à l'heure où on est, de traiter cette question de la nature avec autant de déresponsabilisation, parce que c'est ce mouvement-là moi que je perçois. Je trouve que ça prend vraiment ses distances avec la responsabilité écologique que peut avoir aujourd'hui l'art, avec un parti pris très esthétisant qui affaiblit vraiment considérablement, et sur certaines pièces ça l'annihile complètement le contenu discursif. Moi, il y a des artistes que j'aime énormément dedans. Mariana Castillo de Balle, pour moi, est une très bon artiste que j'ai envie de voir, mais quand je vois sa pièce à côté de la serre interactive de David Gumbs, bah c'est sûr que ça anecdotise presque sa présence, alors qu'elle a une vraie puissance en elle-même et qu'elle aurait dû être beaucoup mieux présentée. J'ai eu vraiment l'impression, alors c'est vrai qu'il y a un ensemble comme ça où on navigue vraiment, et d'ailleurs on le voit, les cartels sont un peu cachés, on sait jamais exactement à quelle pièce se renvoie le cartel, parce que elles sont toutes enchevêtrées d'une à l'autre. Ça peut être un très bon parti pris, c'est pas la question, mais c'est vrai que du coup j'ai eu une sorte d'ensemble comme ça, d'air de jeu, de playground, avec des matériaux, quand je dis infantilisant, c'est quand même assez proche des loisirs créatifs, du craft, quoi, vraiment, quoi. C'est pétant couleur, mais on a de la broderie, on a du on pourrait presque avoir des choses en papier crépon, quoi. Enfin, moi, ça m'a, c'est un peu le sentiment que ça m'a donné, d'autant que ça voulait se donner dans une sorte d'entre-deux, entre quelque chose d'exotique et pour moi un peu trop exotisant d'ailleurs, mon goût, enfin voilà, et quelque chose un peu plus apocalyptique. J'ai pas tellement senti le côté apocalyptique. Il y a d'autres propositions comme ça d'artistes que j'aime bien, comme de Vere Jiquel, où là j'ai trouvé ça extrêmement faible. Donc c'est un projet, en fait, c'est presque comme une sorte de maquette. On leur a proposé de faire un mur, c'était une commande, un mur de céramique, et donc avant ils ont fait une sorte de peinture sur de panneaux en peinture de soie. C'est très joli, c'est très délicat, mais enfin bon, ça me dirait absolument rien pour voilà ce thème quand même assez assez lourd, assez chargé aujourd'hui, quoi. Donc j'ai vraiment pas trouvé ce lieu dystopique là. Ça m'a pas fait bouger d'un iota de mes positions par rapport à la nature. Il y a plutôt quelque chose d'assez récréatif en fait. J'ai l'impression qu'on avait envie de me divertir avec la nature, avec une image de la nature un petit peu naïve, dans laquelle moi, voilà, peut-être par rapport à des positions que je peux avoir, m'ont complètement déçu.
Alors on va revenir sur cette aspect-là de votre critique, mais dire que Sandra a encore allé, je reviendrai vers vous, Florian, vous inquiétez pas. Sandra, vous n'avez rien contre le papier crépon, vous ?
Non, je n'ai rien contre le papier crépon. Cette exposition, en fait, elle aborde la question donc des rapports de la nature et de la culture avec une légèreté apparente et qui nous attire, et c'est pas forcément un défaut. Les œuvres, elles sont installées dans un espace effectivement totalement décloisonné, qui est celui de la gare Saint-Sauveur, comme une vaste serre, nous dit la commissaire. Cet espace, donc, décloisonné nous entraîne dans une sorte de charivari d'œuvres qui dialogue donc de manière assez organique. Je suis assez d'accord avec Frédéric. Il y a des œuvres proches du décor, ça c'est affirmé, c'est une volonté. Effectivement, il y a cette grande peinture sur soie de 15 mètres de long de Dewarie Jiquel, elle est quand même assez impressionnante. Il y a ces créations de la designer Clémence Seyès, notamment cette cloison perforée qui transforme une partie de l'exposition en architecture tropicale, qui est une partie de l'hôtel Barragan. Donc ce sont des œuvres, je dirais, haute en couleurs, l'ambiance elle est parfois presque baroque, mais ça n'empêche pas un fond très parfois très dénonciateur.
Qui se manifeste comment pour vous alors, quelle pièce?
Par exemple, l'artiste mexicain Cristobal Garcia. Ça, j'ai aimé aussi qu'il y ait des œuvres mexicaines, par exemple. Étant donné le sujet, il s'agit d'une barque échouée qui contient des noix de coco, avec derrière des grandes peintures de pieuvres géantes, donc une sorte de toile apocalyptique. Et il faut noter que cette grande peinture, elle a été réalisée sur une toile composé de plusieurs draps de bain pour touristes, en fait, qui ont été cousus ensemble. Tout cet ensemble composerait une sorte de réinterprétation de la barque de Charon, donc celle qui mène les âmes des morts vers le royaume des enfers, et tout cela dans une esthétique très colorée. Alors c'est bien sûr une vision humoristique, mais c'est aussi très ironique et très dénonciateur sur un tourisme balnéaire, je crois, qui a lieu notamment au Mexique. Et la pieuvre est d'ailleurs le symbole de cet impérialisme des États-Unis sur...
Oui, qui le voit.
Est-ce qu'on est sur Sandra l'a vu.
Il y a quelque chose d'offensant dans cette pieuvre et de menaçant. Et en fait...
Pour vous, juste un instant, pour vous, c'est pas aussi évident que cela ?
Non, c'est pas si évident que ça, d'autant que c'est bordé, en fait, d'œuvres hyper formelles. À côté, on a Gladys Alonso, qui fait une sorte de sculpture en béton crépi. Un peu, ça ressemble à ça, qui sont voilà, qu'elle prend donc, de sa perception des volcans au Mexique, si je me souviens bien. Et du coup, ça a tendance à ramener vers une sorte d'interprétation d'un regard simplement formel, quoi. Et c'est vrai que moi, j'ai dû lire effectivement le dossier de presse et des trucs pour me rendre compte de la critique, mais je trouve qu'on n'était pas du tout préparé à ça et qu'il n'y a pas non plus un chemin comme ça entre les œuvres qui ferait qu'on pourrait poser les conditions d'un dialogue critique. Moi, je l'ai pas vu.
Sandra.
Je trouve par exemple que au travers cette question du rapport de l'homme à la nature, ça permet ici de traiter les questions du non-respect ou d'exploitation de certaines cultures indigènes. Ça par exemple c'est présent dans l'exposition, donc on peut pas dire que c'est pas qu'il n'y a rien de politique. Je pense à cette grande œuvre en fait qui nous accueille à l'entrée de l'exposition, qui sont ces 40 blasons de l'artiste équatorienne Maria José Argenzio, donc qui consiste en 40 étendards qui ont été brodés avec des femmes indigènes équatoriennes par l'artiste et qui mettent en scène des symboles spécifiques de l'Équateur, son peuple et son histoire, je crois.
Moi, j'aime bien cette pièce, mais quel rapport avec le sujet, quoi.
C'est-à-dire que le blason fait évidemment référence à une sorte de forme de noblesse européenne qui est ici détournée à une sorte de critique du colonialisme. Cette critique du colonialisme, elle est quand même présente dans toute l'exposition.
Et la Diaz Vert ?
Alors ça, justement, la critique du colonialisme, c'est vraiment le problème de l'exposition, parce qu'on ne peut pas parler de tout et de n'importe quoi dans un espace, entre guillemets, aussi réduit, en survolant les choses. Et là, véritablement, le colonialisme s'est survolé sur deux ou trois œuvres. Et on aurait, si on n'aborde une question telle que celle-là encore aujourd'hui, il faut le faire avec une vraie étude dans ce cadre-là. Là, moi, j'ai trouvé qu'effectivement, ça ajoute de la confusion plutôt qu'autre chose, même si moi aussi, j'aime beaucoup cette œuvre, cette œuvre-là de Maria José Arrencio. Pour en revenir, puisque j'ai la parole, je continue, à l'aspect infantilisant que vous évoquiez, Florian, là, j'ai quand même envie de dire que c'est un peu le problème récurrent de l'île 3000 et particulièrement de la gare Saint-Sauveur, où on veut faire, entre guillemets, du populaire, et j'ai l'impression que c'est un endroit où on demande au commissaire d'y aller mollo sur la pédale et de pas pousser trop loin sur la réflexion.
Plus du divertissement que la réflexion.
C'est un peu ce que j'ai souvent vu.
Ou une façon, disons, plus facile et agréable de traiter le sujet.
C'est un peu ce que j'ai souvent vu à la gare Saint-Sauveur. Et in fine, moi je trouve que cette exposition, elle est pas inintéressante parce que elle pose une ambiguïté entre déclin ou renaissance, chute ou évolution. Et elle est la fin de l'exposition, même si moi aussi j'ai des réserves sur le petit rideau de la Régie Kell, mais la fin de l'exposition est intéressante parce que devant cette peinture sur soie de la Régie Kell, il y a des créatures hybrides de Renaud Gérès, qui est un artiste que j'aime beaucoup. C'est des créatures inachevées qui sont vraiment hybrides. Elles mélangent du mobilier avec des sortes de tuyaux, des masques de costumes carnavalesques vénitiens. On a l'impression d'être face à des créatures qui sont tombées dans une faille technologique. Et le vrai sujet de l'exposition, moi je le trouve là, mais bon, il est à la fin et c'est vrai que...
Il ne faut pas le rater. Hein.
Voilà.
Sandra, encore aller très rapidement.
En fait, c'est traité de manière certes métaphorique, je suis d'accord, mais je trouve que la question du rapport à la nature est vraiment traitée. Et si les œuvres, elles sont, on va dire, hautes en couleur, elles sont pas... elles sont pas superficielles, je trouve qu'elles sont justement stridentes et ça fait du bien. En fait, elles s'imposent un peu avec fracas. En tout cas, moi, c'est ce que j'y ai vu et surtout ce que j'ai aimé, c'est qu'on dépasse justement cette question de la dénonciation d'un rapport à la nature qui serait totalement destructeur, pour assister peut-être à la naissance d'une nature qui serait devenue cyborg, hybride, mutante, avec les œuvres de Caroline Mesquita, par exemple.
Florian Guettet.
Non, je crois que, moi j'ai pas vu ça dans cette expo. À la fin, quand même, elle fait jamais l'économie du littéral, hein, ça on a bien compris. Par exemple, l'humain est quand même souvent réduit à des ruines, avec un tas de visages de statues classiques, par exemple de Cynthia Gutierrez, hein. Il fallait qu'on monte la ruine, donc on a mis un tas de statues en ruine. Donc, je suis pas sûr du positionnement. Et puis, d'une façon générale, juste posons la question là. Est-ce que montrer la nature comme un Eldorado, c'est pas précisément le problème qui nous a mené à la situation où on est là, quoi? C'est-à-dire, si on considère que la nature, c'est un paysage à exploiter avec ses ressources qu'on peut épuiser, vers lequel on devrait se ruer. Est-ce que c'est vraiment le message qu'aujourd'hui il faut porter quand on voit les ravages que ça fait sur la biodiversité ou sur...
Mais je crois que l'exposition montre que la nature est un Eldorado voué à disparaître, elle ne dit pas autre chose.
Elle dit l'inverse, elle dit justement... Avec quand même une
alors,
sorte...
J'ai pas, on n'a pas compris la même chose, mais moi j'ai l'impression qu'elle elle dit justement
lire
que...
le communiqué de presse. Hein,
voir l'expo. C'est ça qui m'intéresse, le communiqué de presse est une chose, c'est très bien, mais...
La conscience du changement climatique ne fait pas l'unanimité. De toute façon, la nature survivra à l'homme. Voilà ce qu'elle dit.
Oui, mais de manière mutante, hybride, différente. Enfin, je veux dire, c'est pas... la nature, comme on l'entendrait, cet Eldorado vert, serait voué à disparaître. Enfin, moi, j'ai entendu ça comme ça, mais...
Bon, voilà, différentes interprétations. Allez voir par vous-même cette exposition, La Déesse Verte. Vous avez jusqu'au 3 novembre. C'est à la gare Saint-Sauveur. Pour nous apaiser, on on est là, pas seulement pour s'apaiser, mais pour échanger des analyses. Alors là, ce sont les coups de cœur, donc on finit par des choses a priori que vous avez aimées, hein, sinon c'est, ou peut-être vous avez des coups de griffe, hein, vous avez le droit aussi chaque jour dans cette dispute. Florian Guettet, Jungle et Sentiments, Julien Salaud au Colisée, de quoi s'agit-il?
Oui, alors Julien Salaud, parce que c'est un habitué de l'île 3000, en tout cas il était déjà là à la précédente édition en 2016. Et puis c'est un artiste que je suis depuis plusieurs années, depuis qu'il avait gagné ce prix à Montrouge, ensuite il est passé au Palais Tokyo, au Musée de la Chasse à la Nature, et puis à l'abbaye de Fontevraud, où il a une installation qui court jusqu'en 2021, je crois. Donc un travail que j'ai toujours apprécié pour sa finesse technique. C'est-à-dire, formellement, je trouve qu'il est quand même... Voilà, c'est quelqu'un qui est formé d'habitude à... Enfin, qui est formé, pardon, à la peinture et au dessin, puis qui a développé, en gros, depuis 2008, une œuvre beaucoup plus sculpturale, avec beaucoup de taxidermie, où il mobilise des matériaux naturels, donc des peaux, des plumes, des branches d'arbres, des feuilles, des animaux empaillés, comme je viens de le dire, du fil de coton, qui est très important chez lui, et puis des techniques artisanales patientes, souvent minutieuses, la broderie, le tissage, l'enfilage de perles, le travail de tapisserie, etc. Et c'est vrai que moi, je m'étais souvent posé la question de savoir si Julien Salaud faisait autre chose qu'enfiler des perles. C'était vraiment une vraie question, parce que... non, mais je trouvais ça un peu court en discours, et je trouvais ça très auto-centré. Je dis pas que cette exposition m'a fait complètement changer d'avis, mais j'avoue que j'ai compris beaucoup mieux certains enjeux de son travail. L'exposition en elle-même est pas formidable dans la mise en espace, le lieu est pas fait pour accueillir forcément des œuvres contemporaines, mais je trouve qu'il y a un parcours et un parti pris il y a quelques pièces qui m'ont vraiment intéressé. On est accueilli déjà par donc ça s'appelle Jungle et Sentiments, donc vraiment sur une sorte de rapport affecté à la nature, hein, pour le coup je trouve ça peut-être plus intéressant que ce qu'on trouvait à la gare Saint-Sauveur. Ou qui lui a permis de sortir de sa mythologie personnelle. Donc on est accueilli par une grande tapisserie qui a été réalisée collectivement. Il y a plusieurs œuvres comme ça qui sont réalisées en collectif ou en duo ou parfois. Donc il y a comme ça une prise de position sur l'artiste qui n'est pas forcément solitaire. Donc quand il est parti notamment, donc il a beaucoup vécu, je crois, à la Guadeloupe, et puis ensuite il est parti au Mexique. Il a fait des temps de résidence assez longs. Et donc il a créé cette tapisserie qui est une forme d'agrégat symbolique. Alors avec son bestiaire qu'on retrouve souvent, c'est-à-dire le crocodile, l'araignée surtout, hein, qui est vraiment son animal fétiche, qui est ici organisé autour de la déesse de la fertilité. On trouve des crocodiles, on trouve Frida Kahlo, on trouve des coquillages, des têtes de mort, des abeilles, des navires colons, vraiment une sorte de cartographie comme ça de l'histoire du Mexique. Qu'on va aborder autrement à l'étage dans le cabinet de curiosité. Alors là, c'est très simple, hein, comme dispositif. Il y a trois types. Il y a les créatures naturelles, les créatures artificielles et les créatures exotiques. Donc on peut trouver des insectes épinglés à la façon d'un naturaliste, mais aussi ensuite des chimères créées par lui, donc ornées de plumes, de perles, de sequins. Enfin, en tout cas, quelque chose d'un peu plus panaché, on va dire. Et puis à la fin de ce cabinet de curiosité, on rentre dans une pièce sombre et on a un Quetzalcoatl, c'est-à-dire cette sorte de serpent typique de la civilisation aztèque, je crois, dans un rendu phosphorescent. Hein, donc vraiment avec quelque chose d'assez presque futuriste là-dedans, mais il nous avait déjà fait le coup au Palais Tokyo et à Fontevraud, et moi je trouve que ça marche plutôt bien parce que c'est un vrai potentiel narratif. Et ça vraiment, il arrive à raconter des mythes, des contes. Je me suis retrouvé pour le coup un peu plus comme un gamin, mais ça m'a plu. Il se met lui-même en scène dans ces histoires-là, dans ces mythes, notamment par le héros Puma. Et puis, il arrive, il me semble, à dépasser quelque part l'ornementalisme en fait de surface de son œuvre pour attiser notre curiosité. Et je me suis dit, en sortant de là, finalement, effectivement, peut-être que si on a coupé ce lien avec la nature, c'est peut-être aussi parce qu'on manque de sentiments pour la nature, et que je trouvais ça pas mal, peut-être un peu romantique, mais finalement assez convaincant que de réaffecter notre relation à la nature.
C'est un bon programme. Il faut de la jungle et des sentiments. C'est ce que nous dit donc Julien Salaud. Colisée, c'est jusqu'au
18 août.
Jusqu'au 18 août. Le dernier regard, coup de cœur sur ce Lille 3000 Eldorado, c'est Frédéric Bonnet, avec donc, j'ai bien compris cette fois, c'est la pièce Olga d'Amaral et Mircea Cantor dans l'exposition Golden Room, qui se trouve où d'ailleurs cette exposition?
Au Palais des Beaux-Arts.
Au beau Palais des Beaux-Arts,
à Lille. Dans cette exposition, encore une fois, organisée par Jérôme Sens, Jean-Max Collard et Isabelle Bernini, qui touche à l'objet même, hein, de la quête initiale, des conquistadors, espagnols et européens, l'or lui-même. Et dans cette exposition que j'ai trouvée assez inégale, même très inégale,
ça veut dire pas bonne.
Y a, non, ça veut dire vraiment très inégale. Ça veut dire qu'il y a des choses merveilleuses comme Mircea Cantor et Olga de Amaral, et bien des choses un peu plus lourdes, on va dire. Et donc Mircea Cantor, vraiment magnifique installation où c'est l'entrée dans l'exposition, et c'est une salle entièrement recouverte de couvertures de survie, donc dorées, évidemment. C'est une œuvre qui s'intitule Le ciel et l'enfer simultanément, et le titre pose en lui-même évidemment l'ambiguïté de ces objets entre attraction et répulsion, et aussi le déplacement du contexte dans un musée où beaucoup des œuvres, en particulier tout ce qui est les œuvres médiévales qui sont accrochées à cet étage-là du musée, beaucoup évidemment ont recours à l'or. Et un autre élément qui est là dans cette installation, c'est une double hélice ADN réalisée avec des épingles de sûreté en or, qui là aussi a introduit un sentiment d'ambiguïté, ou en tout cas d'une humanité en mutation, et au final moi me fait poser la question de savoir dans quel monde on vit, et j'ai trouvé que c'était une agréable manière d'introduire ce genre de questions. Et un peu plus loin dans le parcours, Olga de Amaral, qui semble répondre quelque part à Mircea Cantor visuellement, en tout cas, Olga de Amaral, c'est une artiste âgée qui est née en 1932, qui est colombienne, et qui a développé l'abstraction sud-américaine d'une manière assez singulière avec l'emploi de l'or et de l'argent, justement, en faisant des tissages de fibres sur lesquelles elle a appliqué de l'or. Alors on a plusieurs de ses œuvres qui sont accrochées dans une grande salle, parfois sur les murs, mais aussi surtout certaines sont accrochées en position centrale, sont suspendues dans l'espace, et donc deviennent elles aussi ambiguës entre peinture, sculpture, espace, architecture, ordonnancement. Et ce qui m'intéresse dans le travail de Olga de Amaral, c'est que elle a détraqué quelque part cette abstraction sud-américaine, non seulement avec l'usage de l'or, mais parce que systématiquement l'ordre et l'ordonnancement du début de l'œuvre finalement va prendre une autre direction à un moment donné ou à un autre. Et ce que je retrouve de commun dans les deux œuvres, c'est un questionnement de la valeur des choses et de la confusion possible, que j'ai trouvé assez intéressant donc entre Mircea Cantor et Olga de Amaral.
Sandra Dencourlet, vous avez vu ces pièces
oui,
également.
Oui, j'ai parcouru Golden Room, donc effectivement c'est assez inégal, puisque la difficulté c'est de mettre des œuvres contemporaines au milieu des collections permanentes en fait du Palais des Beaux-Arts. Il y a une autre œuvre moi qui a attiré mon attention, qui est celle de Kendall Gers, qui est composée finalement de formes qui imitent les formes religieuses à partir de matraques ou de revolvers, donc qui mêlent les formes violentes et ces formes religieuses. Donc c'est assez strident, encore une fois, à côté des œuvres religieuses à proprement parler du Moyen-Âge qui sont dans le Palais des Beaux-Arts. Voilà, encore une fois, c'est un Eldorado douloureux, mais je trouvais que c'était assez juste, à la fois plein d'espoir et de désenchantement.
On a jusqu'au 1er décembre pour se rendre à Lille et voir l'une, l'autre, plusieurs de ces expositions qui constituent cet Eldorado. D'ailleurs, demain, nous, on continuera à vous parler du Mexique, puisque dans le programme que j'annoncerai tout à l'heure, on va parler d'un roman mexicain de Jorge Volpi sur l'affaire Florence Cassez. Ça dit d'autres choses sur le Mexique, croyez-moi. Avant de conclure cette émission, j'ai la joie ce soir qu'Aïssa Tundoy veuille bien faire le jeu de la dispute. C'est une joie. Aïssa, je ne vous vois pas assez à l'antenne. Bon, je vous vois au bureau, c'est vrai, j'ai cette chance. Aïssa, la question du jeu d'hier soir et sa réponse.
À quel auteur de bande dessinée Laetitia Carton a-t-elle consacré son premier long métrage documentaire? Et la réponse était Edmond Baudouin.
Ce soir, nous faisons gagner des exemplaires du magazine d'art L'Œil, Rembrandt, Vinci ou Caravage, qui est en kiosque actuellement. Quelle est donc la question pour en gagner ?
Lequel de ces trois artistes, Rembrandt, Vinci et Caravage, est l'auteur d'un tableau découvert il y a 5 ans dans un grenier qui sera prochainement mis en vente lors d'enchères exceptionnelles ?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinot et Joséphine Dumoulin, prise de son Anthony Thomasson, réalisation Alexandre Fougeron. Demain, donc, littérature dans la dispute avec Clémence Pouletti, Lucille Como et Florent Georgesco. Un roman mexicain, l'affaire Florence Cassez, je vous l'ai dit, de Jorge Volpi. La femme aux cheveux roux d'Oran Pamuk, White de Bret Easton Ellis. Et un coup de cœur, Lucille Como, pour la bande dessinée Révolution, tome 1, La liberté de Florian Groisel et Youn Lokar.